Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Saint-Martin souffle et la Floride retient son souffle. L'ouragan José a épargné les Antilles françaises la nuit dernière, mais Irma va frapper le Sud-Américain dans les toutes prochaines heures. Le FN, combien de divisions dans ce journal? Nous suivrons la rentrée politique dans le flou de Marine Le Pen. Nous irons aussi à Londres, où la marche pour l'Europe, marche anti-Brexit, a fait le plein hier. Et puis en Norvège, nous verrons que l'écologie politique a le vent en poupe, et c'était loin d'être évident dans le premier pays producteur de pétrole en Europe. Une trajectoire déviée de quelques centaines de kilomètres vers le nord et l'ouragan José a donc épargné cette nuit les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Épargné surtout en fait les habitants de ces deux territoires d'outre-mer encore traumatisés par le passage d'Irma qui a mis les deux îles à genoux. L'angoisse de José a donc laissé place au soulagement. C'est le récit depuis Saint-Martin de Mathieu Mondoloni.
Les habitants s'étaient préparés toute la journée avec angoisse à l'arrivée de ce deuxième ouragan. L'île avait été placée en vigilance violette à partir de 13h, mais à 18h et après un peu de pluie...
Ne penche pas sur la rambarde à côté de moi, elle n'est pas solide. Hein.
Aucun signe de l'ouragan José.
C'est un gros soulagement.
Les habitants comme Rodolphe peuvent enfin respirer, relâcher les nerfs et penser à l'après.
Il va y avoir des pleurs, il va y avoir des gens qui vont dormir 12 heures. Voilà, on va tous réagir de manière différente. Mais oui, il va y avoir un contre-coup. On pouvait vraiment imaginer... la suite plus concrètement qu'après le passage de José.
L'après, pour beaucoup, c'est reconstruire. Pour Véronique, c'est partir.
Ça fait 28 ans que je suis là. J'ai subi Louis, qui était un niveau inférieur, mais là, c'est trop là. Entre le cyclone et tous les pillages, c'est ça aussi qui pousse à partir aussi.
Elle tient la main de son fils, Dorian, 14 ans.
Dorian, lui, il pleure souvent. Il a deux doigts de craquer, pour ça qu'il veut partir.
Je veux repartir en métropole parce que là, je trouve qu'il n'y a plus rien à faire à Saint-Martin.
Irma et José sont loin de Saint-Martin, mais l'île et ses habitants savent désormais qu'il faudra beaucoup de temps pour oublier leur passage.
Mathieu Mondoloni avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques sur l'île de Saint-Martin, épargnée donc, où les opérations d'acheminement de l'aide alimentaire et matérielle ont pu reprendre par les airs et par la mer. Les inquiétudes restent par contre très vives en Floride, où le cyclone Irma va frapper les côtes sud dans les toutes prochaines heures. 6 millions de personnes là-bas ont été évacuées. Irma a déjà fait 22 morts dans les Caraïbes, dont une dizaine dans les îles françaises. On ignore encore l'étendue des dégâts à Cuba, où l'ouragan a déclenché d'impressionnantes vagues et des pluies diluviennes la nuit dernière. On a connu des rentrées politiques plus enjouées au Front National. Le parti réunit ses cadres ce week-end à Brachet, en Haute-Marne. L'occasion pour Marine Le Pen de sortir de 4 mois de quasi-silence depuis le second tour de la présidentielle. Mais le plus dur, c'est sans doute de masquer les tensions, les divisions en interne, Christine Moncla.
Une agréable journée sur la commune de Brachet.
Entre les averses glaciales et les stands de frites, les cadres frontistes s'évitent autant qu'ils le peuvent. L'ambiance n'est pas aux retrouvailles, mais bien aux démonstrations d'influence entre le courant plus identitaire, celui du retour aux fondamentaux du Front National, et la ligne ni droite ni gauche de Florian Philippot. De favori de la présidente, le numéro 2 du parti est devenu l'homme à abattre à travers son association Les Patriotes. Sûr de lui, Florian Philippot enchaîne les selfies avec les militants et les réponses nonchalantes.
C'est un parti n'est pas capable d'assumer l'existence d'un forum sur Internet, ce serait envoyer un terrible signal à l'opinion publique. Et il faut prendre toutes les bonnes volontés dans la refondation. La refondation, elle ne doit pas se faire à 3 ou 4. Elle doit se faire avec tous les patriotes, même au-delà des adhérents du Front National.
Vous n'avez pas peur que le FN se coupe en deux? Ben non, parce que de toute façon, il y a trop de tension à l'intérieur du parti.
Comme ce militant qui n'a d'ailleurs pas voté Le Pen au second tour à cause du débat présidentiel, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les capacités de Marine Le Pen et sur les risques d'éclatement de leur parti.
Place à Marine Le Pen.
Mais ce n'est pas dans son discours de rentrée qu'ils auront trouvé une réponse. Un résumé de ses anciens meetings avec un peu d'immigration pour son aile droite.
La question de l'immigration pose des problèmes sécuritaires. S'infiltrent chez nous en Europe non seulement des terroristes prêts à passer
un peu de social pour les philippotistes.
Monsieur Macron appelle ça la flexibilité, nous l'appelons la précarité.
Marine Le Pen a encore 5 mois et 12 rencontres en région avec ses militants pour mesurer les forces en présence et trancher peut-être une ligne politique d'ici le congrès de mars.
Et dans l'actualité politique également, Valérie Pécresse qui lance aujourd'hui Libre, son mouvement au sein du parti Les Républicains pour contrer la ligne droitière de Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse a reçu ce matin dans le journal du dimanche le soutien de 75 élus et personnalités de droite, dont Geoffroy Didier, David Lisnard ou David Douillet. Ils appellent de leur veut la refondation de leur parti autour d'une droite, je cite, positive, ferme, sociale et réformatrice. La politique en Grande-Bretagne, forcément monopolisée par la question du Brexit. Le Parlement à Londres doit voter demain les premières lois qui vont organiser la sortie de l'Union européenne. Alors les opposants à cette sortie manifestaient hier en une grande marche pour l'Europe dans les rues de Londres. Ils étaient des dizaines de milliers venus dire à Theresa May qu'il est encore temps de renoncer. Dans la foule, il y avait Antoine Gignot pour France Culture.
C'est une longue vague bleue, une rivière de drapeaux aux couleurs de l'Europe, avec des jeunes, des vieux et des adolescents, comme Léo.
J'ai 15 ans et le Brexit m'a volé mon futur. Je suis désespéré. Un programme comme Erasmus, qui m'aurait donné la possibilité d'étudier un an à l'étranger, n'existera plus. Et mon niveau de vie va inévitablement baisser avec la livre qui est de plus en plus faible.
L'argument économique, c'est la nouveauté de cette mobilisation, avec dans le cortège beaucoup d'entrepreneurs inquiets. Richard dirige une agence de publicité.
Je travaille avec des Français, des Espagnols, des Polonais, des Allemands. S'ils ne peuvent pas rester ici, on va perdre un nombre incroyable de gens talentueux, et en payant en plus une facture de 50 milliards.
Et ce débat autour de la facture que Bruxelles réclame au Royaume-Uni est en train de redonner ici une place à l'opposition. Après un an de silence, Jane et Tim ont l'impression d'avoir de nouveau la possibilité de se faire entendre.
Muselés, on était muselés. Et chaque fois qu'on marche, je crois que les Britanniques peuvent voir que ce n'est pas fini.
Je ne pense pas que ça va changer, mais peut-être ça va améliorer la situation finale.
En attendant la fin des discussions, Jane espère avoir appris à son petit-fils à chanter l'hymne à la joie pour qu'Arthur, 3 ans, prenne la relève.
L'hymne européen et un reportage d'Antoine Gignot à Londres. Nous partons à présent en Norvège où l'on s'apprête à voter demain des élections législatives pour lesquelles le suspense est complet. La coalition sortante de droite est au coude à coude avec l'opposition de centre-gauche et entre les deux, il y a un petit parti qui émerge, parti écologiste norvégien qui a imposé ses thématiques dans la campagne électorale et c'était loin d'être gagné au pays du pétrole offshore. C'est une correspondance depuis Oslo de Grégory Tervel.
Personne en Norvège ne connaissait le parti écologiste il y a encore 5 ans. Dans un paysage politique traditionnellement très stable, les Verts ont émergé si rapidement qu'ils pourraient dépasser demain la barre magique des 4%, celle qui permet une entrée en nombre au Parlement et peut-être même de faire pencher la majorité d'un côté ou de l'autre. La question environnementale a toujours fait partie du débat politique norvégien, même sans parti étiqueté écologiste, mais cette année, et pour la première fois, le lien est clairement posé entre l'activité pétrolière et gazière de la Norvège et la lutte contre les gaz à effet de serre. Les Verts veulent cesser toute recherche et ouverture de nouvelles zones pour l'exploitation d'hydrocarbures, alors que le pays est devenu le plus riche d'Europe grâce à cette industrie polluante. La Norvège possède le plus gros fonds souverain au monde, environ 800 milliards d'euros, qu'elle réserve pour les générations futures de l'après-pétrole. Cette richesse déjà accumulée, combinée à la chute des cours du pétrole et aux accords de Paris sur le climat, incite de plus en plus de Norvégiens à privilégier la question environnementale. Dans un récent sondage, un Norvégien sur deux se disait prêt à laisser une partie des hydrocarbures au fond de la mer afin de limiter les émissions de CO2 du pays. Deux tiers des électeurs voteront toutefois demain pour les trois plus grands partis, tous pro-pétrole.
Grégory Tervel, des palmarès cinéma enfin avec le Lion d'Or à Venise pour The Shape of Water de Guillermo del Toro qui a bluffé les festivaliers à force de poésie fantasmagorique. Et puis à Deauville, festival du film américain, ce sont les Cowboys désabusés de The Rider, signé Chloé Zhao qui remporte le grand prix, difficile à départager d'avec l'autre coup de cœur du jury deauvillois, Ghost Story de David Lowery. Le président Michel Hazanavicius nous explique son choix.
Moi, personnellement, j'ai été absolument ébloui par The Rider et j'ai un peu fait jouer de manière un peu dictatoriale mon rôle de président. Et donc, j'ai fait jouer ma double voix et voilà, c'est comme ça. D'abord, il y a des personnages qui sont extrêmement touchants. Ce sont des cow-boys qui font du rodéo, qui faisaient du rodéo. Et la thématique est autour de cette figure un peu iconique de l'Amérique qui est le cow-boy. Et en fait, on est dans une problématique qui tourne autour de cette phrase qui est « Make America Great Again », qui est une phrase qui fait extrêmement mal, qui a fait beaucoup de mal aux USA. Et là, on la comprend au quotidien ce que ça veut dire. Et c'est extrêmement touchant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un rapport très humain à ces gens. Ça ne légitime rien du tout. Et les choix qui sont proposés, le dilemme qui est proposé au personnage principal est extrêmement bien amené. Et je trouve que la réponse est brillante. Donc moi, c'est un film qui m'a absolument épaté.
Le réalisateur Michel Hazanavicius à Deauville au micro de Nolwenn Lejeune. Le ciel est gris ce matin sur Deauville et sur la Normandie, où il va encore s'assombrir ce ciel au fil de la journée. La pluie va s'imposer en Bretagne, mais aussi sur le sud de l'Aquitaine. Ailleurs, ça reste nuageux, mais avec de belles éclaircies et des températures autour de 18 degrés sur la moitié nord. Cet après-midi, des pointes à 22, voire 24 sur le Languedoc. Les journaux de ce dimanche matin étaient préparés avec Martin Descloseaux. Midi 30, prochaine édition avec Anne Fauquemberg. Moi, je vous retrouve à 10h tout de même.